marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
L'histoire de l'humanité est bien malléable. On ne subit pas seulement l'histoire, on la crée.
Les réfugiés en France au 19e siècle.
Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Voilà un grand progrès que la proclamation du droit d'asile des persécutés. La France, qui a inscrit ce droit dans sa constitution et qui souvent donne refuge à des persécutés de pays voisins, aurait cependant été heureuse qu'on alla plus loin.
La Convention de Genève de 1951 est devenue la pierre angulaire de tout un pan du droit international, européen et français. Elle définit les réfugiés comme des personnes qui craignent avec raison d'être persécutées. On n'en était pas encore là dans la première moitié du 19e. Cependant, une première politique de l'asile s'y expérimente. La monarchie de Juillet produit une législation et une réglementation destinée aux étrangers réfugiés qui ont cherché à se mettre à l'abri des frontières françaises pour des raisons politiques. Nombreux sont en effet chez nous les opposants d'Espagne, du Portugal, d'Italie, d'Allemagne, de Russie, de Pologne, surtout la plus grande émigration de l'époque. Ensuite, le tremblement de terre européen de 1848 produit un nouveau moment d'aimantation. Le gouvernement provisoire de la Deuxième République offre alors son bouclier assez provisoirement. Dans cette première moitié du 19e, les régimes étaient instables, fragiles et leurs dirigeants connaissaient souvent d'expérience l'exil ou le redoutaient. Mais quels qu'aient été les systèmes qu'ils servaient, monarchique, républicain, impérial, ils concevaient encore le refuge plus comme un devoir d'humanité que comme un droit. Les réfugiés l'entendaient autrement et ils furent évidemment déçus par la France. Cependant, celle-ci demeura, avant la Grande-Bretagne et les États-Unis, pays de premier choix. Pour quelles raisons profondes? Sans doute pour les subsides qu'elle verse, avec retenue et volonté de surveiller. Il ne reste pas moins que la France est la plus généreuse. Et puis, le souvenir diffus de la Révolution compte aussi. L'article 120 de la Constitution montagnarde de 1793 assurait « Le peuple français donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté ». Il n'a pas été plus appliqué que le reste de ce texte constitutionnel, le plus démocratique pourtant que la France ait connu, mais sa trace se devine tout au long du 19e et jusque dans le droit des réfugiés tel qu'il finit par se formaliser à l'issue de la Deuxième Guerre.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Delphine Diaz, bonjour.
Bonjour.
Vous animez, allez, vous êtes 12, 15, 20, vous animez un programme de jeunes chercheurs et chercheuses qui s'intitule
Asile Europe 19, financé par l'Agence nationale de la recherche.
Ben ça, vous l'avez dit, il faut les remercier.
Et qui s'intéresse à la question de l'accueil des exilés et des réfugiés dans l'Europe du 1er 19e siècle.
Et vous avez publié, il y a peu d'années, chez Armand Collin, un asile pour tous les peuples. Il s'agit de la politique de la France pendant le 1er 19e siècle envers les exilés et les réfugiés. Vous expliquez dans ce livre que les problèmes d'aujourd'hui, les problèmes du 1er 19e siècle se ressemblent, mais que le statut des réfugiés n'est pas le même, les chiffres non plus. Delphine Diaz ne sont pas les mêmes.
Oui, les chiffres ne sont pas les mêmes, puisque les réfugiés qui sont accueillis au cours de la première moitié du 19e siècle en France se comptent plutôt par milliers, dizaines de milliers, et n'atteignent pas, bien sûr, les chiffres que l'on connaît aujourd'hui. Malgré tout, dans les représentations de l'époque, dans les perceptions de l'époque, ils sont jugés nombreux, et ils provoquent d'intenses réactions dans la classe politique française, et même au-delà dans la société.
Alors, je vous propose qu'on regarde quelles nationalités sont représentées. Il y en a qui arrivent, dites-vous, par bateau, par bras, par Marseille déjà. Et alors ce sont des méridionaux?
D'abord des méridionaux, surtout effectivement sous la Restauration, où on accueille en grand nombre des exilés espagnols, à la fois venus par voie terrestre mais aussi par voie maritime, mais également des exilés grecs durant la guerre d'indépendance, qui vont arriver essentiellement par Marseille. Également en effet des exilés italiens, là aussi avec soit la traversée des Alpes, soit l'arrivée par bateau.
Vous avez oublié les Portugais qui arrivent à Brest, des Portugais libéraux?
Oui, les Portugais à la fin de la Restauration, en 1829, qui sont aussi accueillis très nombreux en Bretagne et qui vont être répartis dans l'ouest de la France à cette époque.
Alors, les Espagnols arrivent par la mer où ils franchissent les Pyrénées. Ce qui est très intéressant dans le cas des Espagnols, que vous connaissez bien, Delphine Diaz, c'est que se succèdent des émigrations politiques, mais de tendances
contradictoire. Parce que les premiers, ce sont les Joséphins, c'est-à-dire les gens qui travaillaient en collaboration avec l'armée de Napoléon et qui, quand celle-ci, ainsi que le frère de Napoléon, Joseph, ont été battus, se retrouvent à franchir les Pyrénées. Mais après les Joséphins, il y a eu les réactionnaires. Enfin, c'est très compliqué, les émigrations espagnoles.
Il y a en effet toute une stratification de cet exil espagnol, ou plutôt de ces exils espagnols, hein, puisque effectivement la diversité idéologique ici l'emporte. D'abord, ces Espagnols joséphins qui ont soutenu l'administration napoléonienne, puis en grand nombre également les libéraux, et puis on arrive aussi à voir arriver les carlistes,
carlistes.
Ces contre-révolutionnaires, dans les années 1830.
Oui, les carlistes, ce sont les partisans de Don Carlos, qui dit la succession ne s'est pas bien passée sur le trône de Madrid entre Bourbons. Et ces carlistes, ils sont quand même catholiques, traditionnalistes. Je vous propose, vous pourriez nous le traduire, parce que vous connaissez parfaitement l'espagnol, la marche des Oriamendistes, un hymne carliste qui célèbre une bataille de la première des trois guerres civiles carlistes qu'il y a eu en Espagne. Alors, vous parlez très vite, vous autres, les Espagnols, mais on va identifier le refrain. Par Dieu, pour la patrie et pour le roi, les carlistes, avec leur drapeau, combattent pour Dieu, pour la patrie et pour le roi. Alors, dans les salons de l'évêque d'Angoulême, racontez-vous, on fait des loteries pour les carlistes. Dans les salons libéraux, on recueille de l'argent pour les libéraux. Ce qui est singulier dans la position de la politique française sous la monarchie constitutionnelle, c'est que elle accueille successivement des tendances différentes au nom du principe d'humanité qui serait plus fort que le principe de solidarité idéologique.
En effet, c'est l'idée de secourir le malheur, l'infortune de ces réfugiés. Ce sont des termes qu'on retrouve de manière très régulière dans les débats parlementaires.
Le malheur est sacré.
Qui prédomine dans la volonté d'accueillir, puisqu'on a effectivement des régimes qui vont accueillir et aider des réfugiés, pourtant, qui sont des ennemis politiques. On l'a vu, par exemple, avec les Joséphins durant la Restauration, et on le voit encore avec
les Joséphins partisans de Napoléon Bonaparte, ils sont secourus par la Restauration.
Tout à fait, oui. Jusqu'en 1820, ce qui peut paraître, pour nous, complètement contre-intuitif.
Puisque on aime les hymnes ici, en voici un autre. Il s'agit de la Varsovienne. Parce qu'à partir des années 31, 32, 33, je parle du 19e siècle, les Polonais vont devenir la principale émigration. La Pologne, ce n'est plus qu'une expression géographique.
Une expression géographique, en effet, puisque la Pologne est éclatée entre l'Empire russe, l'Autriche et la Prusse. Et qu'en revanche, une insurrection va se déclencher à Varsovie en novembre 1830, se terminer mal en septembre 1831 et occasionner, là encore, effectivement, un nouvel exode politique important.
C'est à ce moment-là que Casimir Delavigne écrit en français, ici on en a une version polonaise, la Varsovienne, qui va être appelée à un immense avenir, aussi bien en France qu'en Pologne. Il s'est levé, voici le jour sanglant, celui de la délivrance. Au soleil de juillet, dont l'éclat fut si beau, la Pologne a repris son vol. Le soleil de juillet, c'est le soleil de la Révolution de juillet, qui va voir la Restauration être remplacée par la monarchie du même nom. Et l'aigle fend les airs et crie « Polonais à la baïonnette, c'est le cri par nous adopté, qu'en roulant le tambour répète, vive, vive, vive la liberté !»
Oh!
Ce sont les Polonais, les plus nombreux. On parle de grande émigration avec un G et un E majuscule.
On parle de grande émigration polonaise, à la fois en raison du nombre de ces Polonais qui arrivent en France. On pense qu'ils ont été environ 6000, dont 4000 vont toucher des secours. Et grande également parce que cette grande émigration va amener en France un certain nombre de personnalités politiques très importantes, célébrées ici en musique par Casimir de Lavigne, accompagné par la musique d'Aubert dans la chanson. Polonais qui sont appelés les Français du Nord, pour insister sur la proximité, cette fois-ci aussi idéologique, entre ces deux révolutions sœurs.
Alors on va entrer maintenant dans le réel, parce que là on a fait un parcours seulement géographique. Quel est le moment où les réfugiés se retrouvent dans ce statut? Je ne sais pas si le mot statut n'est pas un peu exagéré, mais enfin, sous la monarchie de Juillet, à partir de 1832, il y a une première loi et ensuite des réglementations. Et le mot réfugié devient un adjectif, au moins dans le lexique juridique. Eh bien, c'est peut-être avec l'obtention du passeport qu'on va devenir un étranger réfugié. Le passeport, on va le chercher chez les autorités consulaires françaises? À Cracovie, par exemple.
Certaines autorités consulaires ont pu délivrer des passeports à certains membres d'exode politique pour leur faciliter le voyage et pour leur faciliter l'arrivée en France. Mais une fois arrivé en France, il faut échanger son passeport étranger contre un passeport français très souvent.
Pour entrer dans ce pays, il vous faut un passeport qui soit un passeport. Le passeport est la plus noble partie de l'homme. D'ailleurs, un passeport ne se fabrique pas aussi simplement qu'un homme. On peut faire un homme n'importe où, le plus étourdiment du monde et sans motif raisonnable. Un passeport, jamais. Aussi reconnaît-on la valeur d'un bon passeport, tandis que celle d'un homme, si grande qu'elle soit, n'est pas forcément reconnue.
Disons que l'homme n'est que le véhicule matériel du passeport. On lui fout un passeport dans la poche intérieure du veston. Tout comme à la banque, on met un paquet d'actions dans le coffre-fort. En soi, le coffre n'a aucune valeur, mais il contient des objets de valeur.
Et pourtant, on pourrait soutenir qu'à certains égards, l'homme est indispensable au passeport. Le passeport est l'essentiel, devant lui chapeau. Mais sans un homme qui aille avec, pas de passeport possible. Ou en tout cas, il lui manquerait quelque chose.
Un texte qui vaut pour le 19e comme pour le 20e, c'est un texte de Brecht. Extrait de dialogue d'exilés. Alors, les autorités françaises regardent le passeport. Ça peut être simplement un certificat de bonne mœurs, un faux passeport. Enfin, on établit ensuite des listes nominatives et on donne des bulletins nominatifs à chacun des étrangers réfugiés politiques.
Alors en effet, les étrangers qui arrivent en France et qui veulent être considérés comme des réfugiés vont devoir se soumettre à des assignations à résidence dans ce qu'on appelle des dépôts de réfugiés. Et en acceptant cette assignation à résidence, ils vont être non seulement dotés donc de passeports français, mais aussi de bulletins nominatifs de réfugiés.
Et de subsides ?
Bulletins nominatifs de réfugiés qui vont leur permettre ensuite, effectivement, vous avez raison, de réclamer des subsides versés par le ministère de l'Intérieur qu'ils vont pouvoir toucher mensuellement.
Alors ça, c'est quand même assez étonnant à l'époque. Cependant, les hiérarchies sociales sont respectées. L'importance des subsides dépend de l'importance de la position sociale que vous aviez ou de la position politique que vous aviez dans le pays que vous avez quitté.
Il s'agit en effet de maintenir le train de vie que l'on avait à l'étranger. Et en effet, les membres issus des élites militaires ou civiles vont avoir des subsides bien majorés par rapport aux simples domestiques ou aux artisans, aux paysans, nombreux, par exemple chez les carlistes espagnols.
Et ils vont assez vite se trouver des métiers, ces réfugiés politiques ? Ou bien le fait d'être dans des dépôts et d'être sous surveillance, de voir leur mobilité contrôlée, va les gêner pour trouver du travail.
Oui, en effet, ces assignations à résidence compliquent beaucoup la recherche d'une activité rémunérée qui est fortement encouragée à l'époque, déjà par le ministère de l'Intérieur, qui très souvent se plaint de ces réfugiés jugés oisifs dans les dépôts. Donc on va en effet les inciter à retrouver du travail. On va par exemple créer à cette époque-là la Légion étrangère dans le but avant tout d'employer des réfugiés.
1832.
Oui,
31, pardon.
Elle commence véritablement à fonctionner
en 32. Donc, 33, oui.
En Algérie, donc on les emploie très concrètement à la conquête de la nouvelle colonie. Par ailleurs, en effet, ces mobilités vont être rendues très compliquées par le principe de l'assignation à résidence. Et dès qu'un réfugié trouve un travail, on peut saisir les difficultés concrètes de sa vie quotidienne à travers les échanges constants avec les préfets, qui octroient très souvent quand même des autorisations de déplacement pour ces réfugiés qui travaillent.
Les lectures que vous avez pu faire dans les archives montrent que les autorités étaient inquiètes de la culture du secret. Qui nécessairement, par exemple chez les Italiens, accompagnaient la vie des réfugiés, ne vont-ils pas constituer des associations ?
C'est une des grandes inquiétudes qui explique aussi qu'on essaye de limiter dans le temps l'existence de ces dépôts de réfugiés en province, c'est-à-dire que les réfugiés sont sans cesse assignés à résidence dans de nouvelles villes, afin qu'ils ne puissent pas finalement tisser des liens politiques avec la société locale. On va éviter aussi qu'ils se retrouvent entre différents groupes nationaux, donc on va vouloir cloisonner selon les groupes nationaux ces assignations à résidence dans les dépôts.
Et on nomme des chefs parfois issus des groupes nationaux.
Oui, exactement. Mais en effet, ça n'empêche pas, malgré tout, une imprégnation politique très importante et une participation des réfugiés à la vie politique à l'époque, très riche, sous la monarchie de Juillet notamment.
Alors ils vont dans les cafés. Dans les cafés, il y a sur des tringles les journaux. Tringles, rideaux, journaux. Ils vont dans les cabinets de lecture.
Oui, il continue en effet de lire la presse dans les cabinets de lecture, c'est un lieu essentiel de politisation. Il se retrouve aussi dans des salons, le salon de Lafayette jusqu'en 1834, jusqu'à sa mort en 1834, est véritablement une plateforme de l'exil, c'est vraiment l'endroit où il faut être quand on est un réfugié et qu'on veut rester en contact avec la vie politique.
Mais il y a aussi des salons de femmes d'origine étrangères, la princesse Belgio-Joso notamment. Mais là, avec ces grands salons, nous sommes déjà à Paris, alors que je croyais que c'était en province que devaient être consignés dans leur dépôt les étrangers réfugiés politiques. Mais voici un extrait du Rouge et le Noir.
Qui est avec Monsieur Sorel ? Ce n'est pas le comte Altamira ?
Oui, c'est lui. Il est venu chercher refuge à Paris.
Oui, si l'on me rend à mon roi, je suis pendu dans les 24 heures. Et c'est... Merci. Et c'est quelqu'un de ces beaux messieurs à moustache qui me reconduira à la frontière.
Un condamné à mort dans un bal, on n'a jamais vu quelque chose de plus extraordinaire.
Bon, pour une pauvre petite conspiration qui a sombré dans le ridicule.
C'est l'homme le plus intéressant de ce bal.
Comment ?
Mais oui, la condamnation à mort, c'est la seule chose qui ne s'achète pas. Un titre, cela s'achète. Une croix, cela se donne, vous venez de la recevoir. Un grade, cela s'obtient. 10 ans de garnison et un parent ministre de la guerre et on est chef d'escadron. Comme mon frère. Mais la condamnation à mort, il faut la mériter.
Madame de la Mole, Antonin Lualdi, dans le film de Claude Autant-Lara. Oui, alors, ces salons, en principe, on ne devrait pas y trouver d'étrangers.
On trouve des étrangers en grand nombre dans ces salons qui sont invités.
La loi 1832 et les réglementations étaient appliquées strictement.
Oui, parce qu'en réalité, certains ne sont pas assignés à résidence. Ceux qui ont les moyens de ne pas dépendre des subsides ont très souvent l'autorisation de vivre à Paris. Et par ailleurs, même certains qui bénéficient des subsides arrivent à obtenir des dérogations spéciales pour continuer de résider dans la capitale, qui est l'endroit que tous les réfugiés veulent rejoindre à cette époque.
Alors, il y a des réfugiés célèbres, Karl Marx, 43-45, Mazzini, là on est du côté italien, Pellegrino Rossi, c'est un Italien qui va devenir professeur au Collège de France à Paris.
Oui, il n'est pas le seul d'ailleurs à devenir professeur au Collège de France. Adam Mickiewicz aussi, du côté polonais, est également donc nommé professeur au Collège de France entre 1840 et 1844. Donc ils sont très présents dans la vie culturelle et dans la vie littéraire, et on en trouve la trace en effet dans le texte de Stendhal, Le Rouge et le Noir, où on a cette figure d'Altamira qui est une figure de conte qui sort juste d'une conspiration manquée, ridicule, absurde, et qui est une figure extrêmement étonnante que Stendhal décrit avec ces mots. Il a une figure de lion, des moustaches noires, enfin il est à la fois inquiétant et fascinant. Et ces figures de l'exilé, elles vont aussi peupler les romans de Balzac dans la comédie humaine. Elles vont à la fois peupler les romans et peupler les salons, les cabinets
de lecture. Il y a les tables d'hôtes d'Italiens décrites chez Balzac. Figure à la fois messianique et sauvage, celle d'Adam Mickiewicz, le Polonais que vous citiez. Il a été professeur au Collège de France, mais suspendu au milieu des années 1840 parce qu'il commençait à être touché par la grâce du messianisme et à inquiéter un peu le régime. Et voici qu'intervient la révolution de février 1848, qui est un moment intéressant dans l'étude des réfugiés politiques en France, qui produit un appel d'air, comme on dit aujourd'hui dans le vocabulaire politique. Et Mickiewicz va aussitôt réagir. Alors on l'entend, qui écoute les échos de la révolution de février, et puis ensuite il écrit.
Citoyens! Le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec nos libertés et nos gloires. Les cris de « Vive le gouvernement provisoire !»« Vive Lamartine !»« Vive le drapeau tricolore !» éclatent de toutes parts. Les manifestants eux-mêmes, débordés, subjugués, s'y associent.
Aux citoyens Michelet et Quinet. Citoyens, l'établissement de la République française inaugure l'ère de la liberté des nations. Vous êtes de ceux qui avaient pressenti cette ère. Vous avez travaillé à en préparer l'avènement. Les Français jouissent déjà de la plénitude de leur liberté politique. Vos frères polonais sur la terre de France sont encore esclaves. Une législation inique livre leur sort à l'arbitraire. C'est à vous de prendre maintenant l'initiative d'une mesure générale dans l'intérêt de tous les Polonais. Présentez, citoyens, au gouvernement provisoire de la République une pétition pour demander l'abolition immédiate des lois et règlements qui oppriment les réfugiés polonais. En faisant déclarer les Polonais égaux à vous devant la loi, vous accomplirez le premier acte de la délivrance politique de la Pologne. Salut et fraternité, Adam Mickiewicz.
Alors avec le gouvernement provisoire à ses débuts, les Polonais et les autres réfugiés politiques obtiennent un certain élargissement des conditions qui leur étaient imposées. Mais quand on vous lit Delphine Diaz, on voit que très vite, en l'espace de quelques mois, dès la fin de l'année 1848, les grandes lignes de force du contrôle et de l'accueil des étrangers reprennent vigueur. On peut pas sortir de ces sillons-là, finalement.
Oui, en effet, le gouvernement provisoire a été une parenthèse pour les réfugiés, puisque dans un premier temps, en mars 48, juste après cette lettre écrite par Mickiewicz, on va libérer les déplacements, les mouvements des réfugiés. On va les autoriser à venir à Paris s'ils le souhaitent. Mais très rapidement, en effet, la tradition de contrôle administratif va reprendre le dessus et dès l'été, en réalité, les mouvements des réfugiés vont être bien plus surveillés et les lois héritées de la monarchie de Juillet, la première étant celle de 1832 que vous avez citée, va être remise en vigueur par la Seconde République.
Pendant ce printemps des peuples de 1848, les Polonais se sont réveillés de nouveau. Vous racontez une histoire qui est extrêmement contemporaine. Nous sommes l'été 1849, l'Autriche a déporté vers les États-Unis 200 Polonais démocrates et les a mis dans un bateau au départ de Trieste, qui s'appelait le Gian Matteo. Et qu'est-ce qui se passe après?
Alors il se passe que les réfugiés polonais à bord de ce bateau vont s'engager dans une forme de mutinerie et vont réclamer à tout prix de pouvoir débarquer sur les côtes de France. Et cette mutinerie donc va aboutir au fait que le bateau va devoir faire halte dans le port de Marseille dans un premier temps. Alors il y a beaucoup de discussions pour savoir si on va permettre à ces réfugiés déportés, à l'époque on dit transportés vers les États-Unis, est-ce qu'on les autorise ou pas à débarquer sur le sol de Marseille? Et finalement on refuse. Le gouvernement donc à l'été 49 exprime une fin de non-recevoir. On va les envoyer vers l'Algérie où ces réfugiés polonais vont considérer qu'ils vivent finalement une seconde proscription, un second exil.
Oui, parce que aux élections de mai 49, le parti de l'ordre l'avait emporté. On n'était plus du tout au temps du premier gouvernement provisoire. Deux questions pour finir, Delphine Diaz. Je rappelle que vous animez ce programme Asile Europe avec de jeunes chercheurs consacrés au phénomène de l'exil politique au 19e siècle. Il y a des communautés nationales en suspens. Les Polonais, est-ce qu'ils restent Polonais en France? Est-ce qu'ils veulent devenir Français?
Alors, c'est vrai que si on regarde les chiffres de demande de naturalisation, ils sont assez faibles, hein, notamment du côté des Polonais, puisqu'il y a une aspiration, malgré tout, à conserver une nationalité polonaise qui n'existe pas hein, juridiquement, mais qui, symboliquement, est très importante. Et par ailleurs, certains qui demandent la naturalisation française, comme par exemple Mickiewicz, ne l'obtient pas. Hein, malgré ses multiples demandes, en 1852, il réitère encore sa demande sous le Second Empire et on va lui opposer, là aussi, une fin de non-recevoir, en lui disant qu'il est le plus dangereux de tous les réfugiés polonais. Donc, vous voyez, c'est pas toujours non plus évident d'obtenir cette naturalisation.
Les Polonais peuvent, sans conscience d'une trahison, demander la naturalisation, parce qu'ils considèrent la France comme une seconde patrie. Et vous expliquez que pendant cette période, le premier 19e siècle, la France est à la première place des pays demandés par les exilés politiques. Avant les États-Unis, vous en parliez, avant la Grande-Bretagne, avant la Suisse, bien sûr.
Avant la Grande-Bretagne, en effet, puisque les réfugiés aspiraient à ce séjour en France très largement, puisqu'ils aspiraient aussi à un confort matériel dont ils ne pouvaient pas disposer par ailleurs dans les autres pays d'accueil, qui parfois, effectivement, de manière intermittente, pouvaient délivrer des secours, mais n'avaient pas une politique aussi généreuse en la matière que la France. Donc, en effet, on a beaucoup de réfugiés qui cherchent absolument à s'installer en France. Alors, pas seulement pour ces raisons matérielles, mais également, bien sûr, pour des raisons politiques. C'est le cas, en particulier, sous la Seconde République, où la solidarité idéologique prévaut, bien évidemment.
Où le réveil de la révolution de 1789-93 se produit. Exilés et réfugiés pendant le premier 19e siècle, un asile pour tous les peuples, point d'interrogation, édition Armand Collin. Delphine Diaz, merci d'avoir été avec nous. L'émission a été réalisée par Valérie Aestaray avec à la technique Ronan Mahé, Ilinka Negulesco, Frédéric Martin, Franck Olivard, Léa Jussot pour la préparation.